c'est l'émission des lycéens
et des lycéennes.
Émission des lycéennes et des lycéens.
Sur la web radio Bassin Minier.
Sur la web radio du Bassin Minier.
Sur la web radio du Bassin Minier.
Bonjour à tous et bienvenue sur la web radio Bassin Minier. Avec Adrien, nous avons choisi pour cette émission de vous parler des migrants. Nous avons tous différents points de vue sur eux et pour certains, les migrants signifient la personne d'origine étrangère, ayant des papiers et habitant en France depuis quelques années. Mais pour d'autres, c'est un être humain sans papier qui souhaite juste passer dans un autre pays et pour qui la France n'est juste qu'une étape du long voyage. Dans un premier temps, nous allons interviewer Annick Plagias, qui est infirmière, puis Nadine Bod.
Bonjour, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît ?
Bonjour, je m'appelle Annick Sabatier, je suis infirmière à domicile, j'habite à Angres.
Donnez-nous votre définition du migrant.
Alors, un migrant, pour moi, c'est quelqu'un qui a dû quitter sa famille, son pays, pour des raisons diverses, économiques, politiques, sociales.
Quels sont vos liens avec eux ?
Parfois juste une relation, une connaissance, parfois amicaux, parfois presque familiaux.
Pourquoi les aidez-vous ?
Parce que ce sont des personnes qui ne reçoivent quasiment aucune aide, puisqu'ils sont, en tout cas politiquement, on voudrait qu'ils soient invisibles, puisqu'ils dérangent, ils n'ont pas de papier, donc ils n'ont droit quasiment à rien. Donc je pense qu'on doit les aider.
Pourriez-vous nous donner quelques exemples d'aide apportée aux migrants ?
On les aide à faire aussi des courses, à se débrouiller un petit peu en ville, à être admis dans certains magasins où ils seraient moins s'ils n'étaient pas accompagnés, et puis aussi une aide sanitaire, puisque comme je suis infirmière, il m'arrive de réaliser des soins auprès d'eux.
Quels sont les plus grands besoins des migrants aujourd'hui ?
Avoir des papiers et la libre circulation.
Et d'après vous, pourquoi passe-t-il par la France ?
Il passe par la France parce qu'en fait, c'est l'endroit au niveau de la mer où c'est le moins large et où il pense que ce sera le plus facile de passer puisqu'il n'y a plus que 35 km. Et quand on a fait plusieurs dizaines, plusieurs centaines ou voire plusieurs parfois milliers de kilomètres, voire dizaines de milliers de kilomètres, c'est plus de 35 km qui les séparent de leur but à atteindre qui est l'Angleterre. Et les conditions d'accueil en France sont tellement pitoyables qu'ils préfèrent partir que de rester chez nous.
Que pensez-vous du comportement qu'ont les personnes autour de vous envers les migrants ?
Ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui ont peur, qu'on les dévalise, qu'on les attaque. Il y a des personnes qui les rejettent, qui sont agressives, etc. Et puis il y en a d'autres qui sont souriantes et qui les accueillent.
Quelles sont les conditions de vie des migrants ?
Ça dépend des endroits où ils vivent, mais elles sont particulièrement difficiles. En général, ils n'ont pas d'eau, pas d'électricité, pas d'endroit où dormir, pas de feu, donc pas de chaleur, pas d'endroit pour pouvoir se laver. Voilà, ils vivent dans la rue ou quasiment dans la rue, quasiment par n'importe quel temps.
Qu'en est-il de leur état mental ? Ça doit être vraiment très dur pour eux.
En fait, vous perdez la fonction d'être humain. Enfin, vous perdez votre humanité en fait quand vous vivez à la rue. Donc, ils sont seuls, sans famille. Ils ont souvent vécu des choses difficiles le long de leur parcours. Il y en a qui viennent de pays en guerre, etc. Ils sont en deuil aussi. Parfois, ils ont perdu des gens autour d'eux qui ont été tués, leurs enfants, leurs femmes, leurs maris. Ça dépend. Et puis certains sombrent dans l'alcoolisme parce que c'est plus facile de s'endormir quand on a bu un petit coup et qu'on dort dehors. Ça dépend, il y en a qui sont très très traumatisés, il y en a d'autres qui le sont un peu moins.
Pensez-vous que l'État peut leur fournir plus d'aide que ce qu'il ne fournit déjà ?
Alors l'État français ne leur fournit quasiment aucune aide. Là il y a une tentative d'ébauche d'aide qui est en train de se monter sur Calais. Où il y a beaucoup beaucoup de migrants. Par contre, il y a une association qui s'appelle Human Rights Watch, qui est une organisation anglaise qui est venue faire le constat de toutes les violences policières et des conditions de vie très difficiles qui existent sur Calais. La France devrait être condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme puisqu'elle ne respecte pas la loi.
Et quant aux migrants locaux, existe-t-il des organisations qui peuvent les aider ?
Il n'y a pas de migrants locaux. Qu'est-ce que c'est qu'un migrant local ? Un migrant n'a pas de papier, donc il ne peut pas être local ou pas local.
Ce que j'entends par locaux, c'est les migrants qui se trouvent dans la région mais qui n'ont pas de papier. Les migrants qui se trouvent par exemple sur la région d'Arras ou même sur Angres, car je pense qu'il y en a.
Alors sur Angres, il y a des migrants qui sont d'origine vietnamienne. Sur la région d'Arras, en fait, il y a des demandeurs de droit d'asile qui sont d'origine diverses et variées, érythréens, somaliens, afghans, kurdes. Alors les demandeurs d'asile, ils ont des droits, ils devraient avoir le droit d'avoir un toit, ils n'en ont pas toujours. Quant aux migrants vietnamiens, il y a des associations caritatives ou des collectifs de personnes qui s'organisent pour essayer de leur donner un peu d'aide et de subvenir à leurs besoins primaires, c'est-à-dire un peu la santé et le minimum vital.
Merci beaucoup pour cette interview. Au revoir.
Au revoir.
Avant de continuer cette émission en compagnie d'Adrien, je vous propose de partager une petite pause musicale avec This Is How It Stands de Mirva. Nous allons à présent interviewer Nadine Bod.
Bonjour, pouvez-vous vous présenter ?
Bonjour, je m'appelle Nadine Bod, j'habite à Angres.
Pour vous, qu'est-ce qu'un migrant ?
Oh là, pour moi, un migrant, c'est quelqu'un qui quitte son pays pour aller s'installer dans un autre pays.
Que pensez-vous d'eux ?
Rien de spécial, je m'interroge sur les raisons qui les font quitter tout ce qui fait leur vie, là où ils habitaient. C'est quelque chose que je ne m'imagine pas faire et je me dis qu'il faut certainement un très grand courage pour un jour faire ce pas-là. Et puis surtout avoir des motivations qu'on n'arrive pas à imaginer. Sans doute des conditions de vie tellement insupportables qu'un jour ils se disent qu'ils n'ont pas le choix.
Les côtoyez-vous ? Si oui, dans quel cadre ?
Il y en a dans le village où j'habite, là à Angres, donc je côtoie ces migrants-là assez régulièrement, dans le cadre de ma vie d'habitante de Angres, quand je vais faire les courses, quand je me déplace, et aussi dans un autre cadre parce que je me suis investie un moment dans le collectif Fraternité Migrants qui s'est organisé il y a quelques années pour leur venir en aide.
Et merci, mais pourquoi vous pensez qu'on devrait les aider ?
Mais disons que quand la situation s'est révélée à moi, je ne me suis pas posé cette question parce que j'avais en face de moi des personnes qui, comme moi, étaient des êtres humains, hein, qui vivaient dans des conditions tout à fait inimaginables, hein, perdues au fond d'un chemin de terre très boueux, par -10 en hiver, sous des bâches en plastique, autour d'un brasero qu'ils alimentaient tant bien que mal avec du bois qu'ils coupaient ici et là et qu'ils prenaient pas. Et je me suis dit que même nos chiens, chez nous, dans nos maisons, étaient mieux lotis en plein hiver.
Et qu'en est-il de leur mental ?
Bon, personnellement, il y a longtemps que je n'ai pas eu l'occasion de discuter avec eux. Hein. Le collectif s'est renforcé et je me suis moins impliquée. Donc le souvenir que j'en ai il y a quelques mois en arrière, c'était de gens qui étaient fixés, tendus, je dirais, sur ce projet de passer en Angleterre, parce que s'ils sont à Angres, c'est dans la perspective de passer en Angleterre. Hein, ils sont sur l'autoroute qui les ramène vers Calais. Et ils avaient un mental, je dirais... extrêmement courageux, parce qu'ils avaient derrière eux déjà un long chemin fait d'embûches et de moments plus ou moins heureux. Alors avec des bons souvenirs, hein, certains étaient passés par l'Allemagne, d'autres la Hongrie, d'autres avaient fait un détour par la Russie avant d'arriver jusque chez nous, avec des moments pénibles. Ces moments-là, en général, ils n'en parlaient pas. Hein, ils nous ont montré sur une carte un jour le parcours qu'ils avaient fait. Et on a pris la mesure à ce moment-là de ce que ça voulait dire, parce que c'est vrai qu'ils racontent, peu d'eux-mêmes, de leur vie au Vietnam, de leur de ce qu'ils ont vécu pour arriver jusqu'ici. Ils sont plutôt réservés, mais les élans d'amitié, en tout cas de, oui, j'ai presque envie de dire de générosité qu'ils ont pour les personnes qui leur viennent en aide. Nous laisse entrevoir des personnes qui en fait sont extrêmement sensibles. Derrière un masque qui a l'air imperturbable, peu expressif, ce sont des gens qui sont porteurs d'une grande sensibilité.
Que pensez-vous du comportement qu'ont les personnes avec les migrants ?
Il y a toutes sortes d'attitudes, hein, à l'égard des migrants. Donc, quoi en penser ? Ben, forcément, je partage les comportements que moi, je juge positifs, c'est-à-dire des comportements qui considèrent les migrants comme des êtres humains comme vous et moi, qui ont droit à vivre dignement, qui ont droit à être respectés dans leur... singularité, parce qu'ils ont un parcours qui est singulier, qui est différent du nôtre. Je dirais qu'ils ont eu la chance ou la malchance de vivre ailleurs qu'en Europe aujourd'hui, et que le fait que nous soyons nés ici aujourd'hui, à une époque où on vit à peu près confortablement en Occident, je me dis qu'on n'a pas beaucoup de mérite à être né ici, hein, et que le sort qui leur a été réservé de naître là-bas n'est que le sort, quoi. Eux n'y sont pour rien. Et par conséquent, les personnes qui se comportent avec eux de façon méprisante, distante, surtout méprisante, parce que distante, ça peut se rapprocher de l'indifférence, et je me dis que c'est un comportement qui est susceptible d'évoluer. Mais les personnes qui se comportent avec mépris, avec violence, ont sans doute beaucoup de méconnaissance sur ces gens qu'on croise et qui ont fait ce parcours. Et quand il n'y a pas de connaissance, quand on ne connaît pas les choses, les gens, eh bien, c'est la porte ouverte aux préjugés. Et de ce point de vue-là, je pense que ce serait un grand bien pour tout le monde qu'il y ait le plus possible d'initiatives permettant de mieux se connaître.
Pensez-vous que l'État peut leur fournir plus d'aide ?
Oui, bien sûr. dans la mesure où il ne leur en fournit pas beaucoup, il ne peut que leur en fournir plus. Quand on part de zéro, tout ce qui se rajoute est forcément en positif, quoi. Maintenant, je pense qu'au niveau de notre pays et au niveau des pays européens, il y a des lois qui existent et qui permettent de protéger les réfugiés qui fuient leur pays pour des raisons diverses et variées, que ces lois ne sont pas toujours appliquées en France. On se dit le pays des droits de l'homme, mais on n'applique pas toujours les lois internationales qui protègent les réfugiés. Et qu'au niveau des fonds européens, il y a des sommes d'argent qui sont mises à la disposition des pays européens pour venir en aide aux démunis, qu'ils soient des personnes de la nationalité ou des personnes étrangères sur un territoire donné, et que la France se fait épingler par la Commission européenne chargée de suivre ce dossier parce qu'on utilise les deux tiers de ces fonds. Autrement dit, on accepte que des gens dorment dehors dans la gadoue en plein hiver par moins 14 et soient traités comme des animaux, et dans le même temps ne sollicitent pas tous les fonds qu'on pourrait solliciter. Ça interroge quand même, ça interroge parce que ça veut dire qu'on pourrait permettre à des gens de vivre comme des êtres humains, avec un minimum de dignité, un toit au-dessus de la tête, un peu de chaleur, un peu de nourriture, sans que pour autant ça pèse sur nos impôts, autrement dit, sans que le gouvernement français ait à prendre ça, on va dire, sur l'argent public collecté auprès des familles françaises. Donc les raisons de cette inaction, j'ai du mal à les comprendre, quoi. Ça me laisse songeuse.
Pensez-vous que si tout le monde y mettrait du sien, on pourrait aboutir à des conditions de vie plus agréables pour les migrants ?
Très certainement, parce qu'il y a un collectif sur Rang, là, aujourd'hui, qui repose sur quelques personnes. Dont j'en connais certaines, je ne connais pas tout le monde, mais qui à une vingtaine font un travail formidable pour permettre aux migrants qui sont ici à Angres de vivre dans des conditions un peu meilleures que ce qu'ils connaissaient il y a quelques années. Alors si à une vingtaine de personnes on peut permettre ça, effectivement, si tout le monde y mettait du sien, je pense que la vie changerait pour les migrants, mais pas seulement pour les migrants, pour toutes les personnes qui sont dans la précarité, qui vivent dans la misère, dans des conditions qu'on ne voudrait pas pour nous-mêmes.
Merci de nous avoir accordé cette interview et je vous dis à très bientôt.
Merci, au revoir.
Merci Sarah. Nous allons maintenant aborder la deuxième vision du terme migrant grâce à une boulangère de Liévin. Bonjour, pouvez-vous vous présenter ?
Bonjour, Madame Lalleux, boulangère à la Fournée des Anges à Liévin.
Pour vous, qu'est-ce qu'un migrant ?
Alors pour moi, un migrant, c'est une personne qui arrive d'un pays étranger à la France.
Quel est votre avis sur eux ?
Un avis... pas d'avis ni positif ni négatif. On a un pays libre, donc toute personne voulant venir migrer en France est la bienvenue pour moi.
Quelle serait votre réaction si vous rencontrez dans la rue un migrant ou en face de vous ?
Alors, en tant que boulangère, on a pas mal d'invendus. On travaille beaucoup, quoi. On donne beaucoup de reste à tout ce qui est romain et autres personnes dans le besoin. Donc jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais eu de soucis. Donc, on a un rapport amiable, quoi, ensemble. Tout va bien.
Merci de nous avoir consacré ces quelques minutes d'interview. À très bientôt.
Merci, à bientôt.
Et voilà, c'est déjà fini. Nous espérons que cela vous a plu et nous vous souhaitons une agréable fin de journée.
J'en profite aussi pour vous remercier de votre fidélité, pour remercier toute l'équipe de Clise 21 qui nous a accompagnés tout au long du montage et pour remercier ma coéquipière Sarah. Bye.